Bonjour, Michel Garcia, délégué du préfet dans les Yvelines. Vous avez évoqué dans votre présentation donc les éléments de diagnostic, les éléments de prospective. Et il m'apparaît qu'il y a un élément qui pourrait manquer, c'est l'idée H2, l'indice de développement humain, au sens de la définition de l'Organisation mondiale de la santé. On dit partout que l'espérance de vie augmente. Or, on sait que dans un même département, d'une ville à l'autre, il peut y avoir des fois un écart de 1 à 3 ans d'espérance de vie pour des raisons diverses et variées. Et cette dimension me paraît être structurante. Est-ce les qualités de votre synthèse qui font que vous avez éludé le propos ou n'est-ce pas un sujet que vous avez pris en compte?
Je l'ai évoqué sur l'aspect impact des pollutions. Les 6 mois de vie perdus dans le dur de la santé. On n'a pas utilisé l'idée H2 parce que l'échelle métropolitaine ne permet pas d'avoir les données, ce qu'on peut avoir parfois à l'échelle des départements, mais pas toujours. Donc c'est dommage de prendre un indicateur sans pouvoir l'illustrer de manière quantitative. On va essayer d'utiliser les je cherche le terme en français, ce que l'ONU a sorti avec ONU Habitat, suite à Quito, les indicateurs du développement durable. Mais honnêtement, on a du mal à motiver les élus dessus. Donc il faut prendre d'autres prismes. Si on partait de ça, jamais on tire le fil du politique. Donc c'est un peu frustrant. Et les enjeux de santé, moi j'en suis pas un expert. Il y a eu d'ailleurs, je crois, une session de l'IEDAT sur le sujet. Il y a eu déjà.
C'est le cycle. Ah oui, il y a eu à Marseille, oui. Absolument. Il y a eu un
atelier. Je les avais reçus. Oui. C'est crucial. Et il y a une focalisation territoriale très particulière, notamment les quartiers nord, où le côté sanitaire, ça fait peur. Ça fait peur, mais on se rend compte que depuis des années, on a sédimenté des situations sans agir complètement dessus. Je prends encore un exemple sur les quartiers nord, dans la question de la relation à l'emploi. J'ai fait le calcul, un peu complexe. On sait dire aujourd'hui où vont se localiser les emplois de demain dans la métropole. Parce que de demain, des 3 ou 4, 5 prochaines années, on sait où sont les offres foncières, on sait où sont les dynamiques. Donc on a territorialisé cette création d'emplois. Et on a regardé en termes d'accessibilité quelle population pouvait y accéder. Donc les habitants des quartiers nord, dans les 5 ans qui viennent, n'auront accès qu'à 30% des emplois nouveaux qui vont se créer dans la métropole. Ça, c'est pas possible de garder ce genre de situation. C'est pas possible. Donc, tôt ou tard, il faudra agir dessus. Enfin, je pousse à ça, parce que je n'ai pas entendu, je ne sais rien. Mais ce genre de relation, on voit bien que la question de la santé elle est éminemment liée aux conditions de vie, à l'habitat, lequel habitat est lié à la question des revenus. Et donc ici, on ne prend pas le problème à la source entre niveau de formation et accès à l'emploi, accès physique et accès donc en termes de formation, on n'y arrivera pas. Et là, sur les poches de pauvreté qu'on a de manière historique dans le territoire, il faut décupler l'action dessus.
Bonjour Elisabeth Gaillard, Colas. D'abord, un grand merci pour votre exemple d'intelligence collective à l'échelle d'une collectivité pour un projet de cette ampleur. Je pense que c'est important de le noter parce que je ne connais pas d'une telle ampleur qui a été mise en œuvre. Donc, je pense que c'est une part originale et certainement profitable pour l'élaboration de votre projet. On attend donc la suite avec intérêt. Par ailleurs, je suis une ex-bucco-rhodanienne et je reste encore très attachée à la région. J'ai été extrêmement frappée, pour ne pas dire choquée, par la réaction des élus lorsque ce projet de métropolisation est sorti il y a quelque temps. Ça a été quand même choquant de voir des mairies qui arboraient des banderoles contre. Enfin, voilà, il y a vraiment eu une réaction d'une violence dans l'expression par les élus que moi je n'avais jamais rencontrée avant, enfin, quel que soit le sujet. Un des points majeurs, si je me souviens de l'opposition, c'était, ça fait le lien avec l'exposé précédent de M. Peraldi, sur l'essentiel de l'argumentation étant sur l'inégalité des territoires et le sentiment que toutes les communes périphériques allaient se faire pomper pour nourrir le monstre marseillais. Cet argument, qu'est-ce qui devient aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est devenu dans vos ateliers? Est-ce que là, vous ébauchez un projet, c'est-à-dire bon, qui parle vraiment de construire quelque chose? Qu'est-ce que ça devient dans cet argument? Est-ce que ça continue à suinter? Ou vous avez réussi à le dépasser et à convaincre les élus de l'intérêt de faire autre chose?
Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Nous, on a créé une bulle. Et c'est une bulle qui est fragile, qui est temporaire, qui est liée à un contexte. dans la vraie vie, on retrouve ce qui a fait les difficultés de démarrage de la métropole. On est en plein dans le premier vrai budget de la métropole. C'est saignant. Parce que chacune des communes veut retrouver ses moyens d'avant. Et surtout qu'on ne compromette pas les projets que pour certaines d'entre elles, elles ont fait en surchauffe juste avant la métropole, pour que ça bascule à l'intercommunalité et donc la métropole. Donc on se retrouve avec un panier plus que lourdement chargé de petits projets sur lesquels on n'est pas en train de revenir parce que ça fait partie des engagements de naissance de la métropole, mais ça va nous plomber financièrement encore pendant 4 ou 5 ans. Donc il y a un vrai gros sujet de localisme, de retour sur le local des investissements ou des moyens de la métropole. Il y a un chiffre qui est très illustratif, c'est 66% des recettes de la métropole qui repartent directement aux communes. On est les champions de France. Il y a des dotations de reversement aux communes. Quand on a 66% de la fiscalité qui nous arrive, enfin quand on a 100% de la fiscalité qui nous arrive, on en retourne 66% en dotation aux collectivités, aux communes. Faible taux d'intégration et puis des choix de démarrage, du pacte financier et fiscal de démarrage. Donc il faut revenir tôt ou tard sur ce deal de démarrage, et évidemment c'est pas facile.
Oui, Nathalie Lemaître, Réseau de transport d'électricité. J'ai une question qui est vraiment liée à votre parcours, puisque vous connaissez bien l'Île-de-France. Moi, je travaille aussi en Île-de-France. Et donc, est-ce qu'il y a des similitudes ou au contraire des divergences fortes entre Grand Paris, Métropole ex-Marseille? Est-ce qu'il y a des choses qui seraient bonnes à prendre dans ce qui se fait ici pour le Grand Paris? Voilà.
Moi, je suis parti du Grand Paris dépité. Dépité par ce qui se faisait sur la métropole. Parce que je portais pendant 10 ans, enfin 7 ans, 8 ans, le schéma directeur de l'échelle régionale, qui me paraissait être la bonne échelle pour traiter la métropole mondiale qu'est Paris. Et de voir les considérations politiciennes qui aboutissaient à du compromis mou, qui ne satisfaisait finalement personne sur une métropole plus petite que la région, qui ne prenait que la zone dense, et qui considérait que c'était ça, la métropole, je pensais que c'était une erreur historique. Mais vraiment. Historique parce que c'était, quand on crée une institution, il faut prendre le coup d'après. Il faut embrasser le territoire qui va vraiment faire métropole. Et là, de considérer que la vallée de la Seine n'est pas... la vallée de la Seine en Ile-de-France n'est pas dans la métropole, que Roissy n'est pas dans la métropole, que Disneyland n'est pas dans la métropole, que Fontainebleau n'est pas dans la métropole, que les espaces agricoles qui sont dans l'Île-de-France ne font pas partie de la dynamique métropolitaine, c'est ne pas comprendre ce qu'est cette échelle de la métropole capitale. J'ai lutté, j'ai fait tout ce que j'ai pu et j'ai rien pu faire. Ça m'énervait. Et en plus, on crée une institution, ce qui est maintenant ce qui se vérifie, qui de toute manière se retrouve en rivalité avec tout le monde. Elle se retrouve en rivalité avec la région qui a les compétences, qui garde les compétences de l'économie, des transports, de la conférence régionale de l'habitat, du schéma directeur de la région qui s'impose aux communes, et on demande à une métropole, donc plus petite, de faire un SCOT, de faire le PLH, de faire le plan climat air énergie, mais c'est pas la bonne échelle. Et elle se retrouve en plus en friction avec les échelles en dessous, parce qu'elle est très proche des échelles d'en dessous. Donc moi, je proposais à l'époque, et je compte que je l'ai même réécrit il y a pas longtemps, je propose un autre schéma, c'est que la métropole soit d'échelle régionale, mais avec une région en tant qu'institution, taillé sur mesure, moitié fédéraliste, moitié suffrage universel, ou un autre truc de genre là, mais donc une relation d'échelle métropolitaine, d'échelle régionale qui donne de la place aux collectivités infra-régionales, mais à l'échelle de la métro, de la région, qui est une bonne échelle pour traiter les enjeux de la région capitale. Donc, voilà. Et ce que j'ai trouvé ici, et ce qui m'a intéressé, c'est pour ça aussi que je suis venu, c'est qu'on pouvait faire le projet en même temps que de s'attaquer à une échelle qui pour moi correspondait à l'échelle sur laquelle il fallait faire le projet. Avec tout ce que je raconte de potentiel, c'est incroyable ce qu'on peut faire. Donc il y a non seulement de gros besoins, mais il y a d'énormes potentiels, et ce qu'on a ici, c'est magnifique. C'est plus difficile en Ile-de-France. Là, on va pouvoir franchir, le jour où ça démarre, encore totalement arrivé, mais le jour où ça démarre, on va pouvoir franchir des caps de qualité de vie, de rayonnement, et de plaisir à être ici, mais dans une vitesse et dans une ampleur inédite. Donc, je suis très optimiste sur ce qui se passe ici, un peu moins sur le cadre de l'Île-de-France.
Oui, Bernard Garin, je suis directeur d'hôpital. D'abord, j'ai trouvé votre exposé remarquable et les enjeux de la métropole superbes. Je pense que c'est vraiment une opportunité d'avoir une échelle, une population et un projet métropolitain qui va un peu transcender les politiques sectorielles. Ma question, elle est relative à la santé. Il se trouve qu'en janvier 2016, il y a eu une loi de modernisation du système de santé qui a prévu la création de groupements hospitaliers de territoire, qui a 135 groupements hospitaliers de territoire en France, dont le plus petit est à Pontivy, avec 80 000 habitants, et le plus grand, c'est celui de la métropole ex-Marseille-Provence, avec 1,8 million d'habitants. Et je voulais savoir si la métropole envisageait d'avoir, comme politique sectorielle, un projet santé-environnement qui s'appuie sur un cadre géographique, cette structure de groupement hospitalier de territoire.
Pour l'instant, le sujet n'est pas venu dans la sphère de notre travail. Ça y viendra certainement parce que l'enjeu est important. Ce n'est pas dans les compétences immédiates sur lesquelles la métropole est en action, donc c'est difficile d'y aller tout de suite. Mais ça fait partie des gros sujets. En fait, ce qu'on fait aussi dans le projet métropolitain, c'est une posture qui n'est pas évidente pour tous les élus, c'est de faire un projet qui s'intéresse à tous les sujets, même s'ils ne sont pas ceux des compétences de la métropole. Après, si on considère qu'il y a des sujets essentiels sur lesquels on n'est pas compétent, on va négocier avec les acteurs en charge. Donc sur la santé, oui, on a bien repéré qu'il y avait un sujet, mais on n'est même pas au début du balbutiement.
Philippe Valade, directeur culture à Clermont-Auvergne Métropole. Métropole l'année prochaine.
Bienvenue dans le club.
Il y a deux questions. La première, c'est, selon vous, vers quelles compétences se dirige-t-on, qu'il soit des compétences stratégiques au niveau métropolitain sur Aix-Marseille-Provence, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des enjeux stratégiques qui soient maintenant suffisamment partagés par les élus? Et la deuxième question est sur est-ce que l'organisation actuelle de la métropole est vraiment, avec son mode de désignation des élus, est selon vous pérenne? Parce que vous travaillez avec une génération d'élus en 2020 rebelote, et est-ce qu'il ne faudra pas tout recommencer?
Oui, alors deux questions. Sur la première, je ne sais pas bien répondre quelles sont les compétences stratégiques. On peut toucher à tout. L'important, c'est de toucher à ce qui est essentiel, en fait. C'est à nous de faire le tri et d'utiliser les compétences à leur juste niveau et de les faire travailler entre elles, ces compétences. Si on avait que des champs monosectoriels, je pense que tout ce que je raconte, on n'arriverait pas à le traiter. Donc c'est bien d'avoir une capacité à toucher à tout, et selon les moments et selon les moyens dont on dispose, de pouvoir actionner tel ou tel levier un peu plus qu'un autre. Donc, par contre, qu'on n'aille pas dans le niveau de détail dans les politiques. C'est moins un problème de champ de compétences que de niveau de détail dans ce que fait la métropole par rapport à ce que devrait faire une collectivité, une commune par exemple. Le niveau de subsidiarité me paraît tout aussi important que le champ de la compétence. L'expression de ce qui est stratégique se passe par... faut dire ce qui relève de l'échelle métropolitaine sans aller sur ce qui relève du niveau très local. Sur la deuxième question, c'est le mode d'élection. On verra ce que ça va être. On a un président de la métropole très hostile au suffrage universel direct. Moi, si on me demande mon avis, mais je l'ai écrit avant, étant un peu plus jeune, je pense qu'une institution, elle est compétente sur plein de domaines, qu'elle relève d'une fiscalité ad hoc, il y a un mode électif direct qu'il faut trouver. Il y a un élu, enfin il y a un groupe d'élus qui est en charge, qui vient avec un projet. Et puis si les électeurs ne sont pas contents, le coup d'après, ça gifle. Voilà, mais les trucs intermédiaires, pas lisibles, où le citoyen ne sait pas trop à qui il doit en vouloir, ou vers qui se tourner pour, aujourd'hui c'est ça. Et, c'est une illisibilité dans les responsabilités, une dissolution, un truc pas clair. Et en plus, c'est pas seulement parce que c'est pas lisible, c'est parce que dans les faits, il y a une dispersion de la décision. Donc d'aller vers un suffrage universel, ça prendra le temps qu'il faudra, mais un jour... se fera partiellement ou totalement. Peut-être qu'en 2020 ou 2021, on fera un truc un peu intermédiaire.
Je voulais revenir sur la question fusion département-métropole, sachant que je rejoins votre question du juste territoire de la métropole. D'abord, parce qu'il y avait un projet de rapport sur cette fusion qui devait sortir à ma connaissance en septembre. Je voulais savoir factuellement où ça en était. Et ensuite, forcément, je pose aussi la question des compétences, notamment, vous avez parlé de la borne et du social tout à l'heure, à savoir, pour les compétences métropolitaines, est-ce que ça a un sens en lien aussi avec votre réflexion sur le fait que la métropole doit a priori plutôt sur des compétences de niveau stratégique, au local, au niveau de gestion.
Quelle était votre première question? Oui, ce que la loi avait, ouais, elle avait prévu deux rapports, en fait, les petites lois dont vous parlez. Il y en avait un sur l'institution qui n'a jamais été fait, à ma connaissance. Voilà, et un deuxième sur comment l'État pourrait accompagner financièrement l'ambition des transports. Donc, j'avais beaucoup œuvré sur celui-là, et le rapport, il existe. Il y a 3 ou 4 personnes qui l'ont, il n'a pas encore été mis sur la place. Le ministre était là hier. Elisabeth Borne. Donc il va y avoir des annonces. Un peu déceptives, un peu positives malgré tout, enfin, un entre-deux comme l'État sait le faire. Mais sur la partie institutionnelle, il n'y a pas eu le rapport. Je crois que ce qui va se passer là dans les jours qui viennent avec les annonces par Macron sur les rapprochements métropole-département, ça servira de rapport parlementaire. Hein. Puis ça va relancer l'idée là. La question sur le social, c'est ça ? Ah, oui, mais c'était une borne il y a 20 ans de ça. Hein. On m'avait dit à l'époque, fais-moi une politique sur les métropoles, mais tu ne travailles que sur l'économique. Donc, tu ne vas pas sur le social, pas plus que d'ailleurs sur l'environnement. Parce que on était dans un moment où le gouvernement de l'époque, c'était Raffarin, Sarkozy était ministre du budget, il voulait rentrer par le prisme, il pensait en tout cas politiquement, il pouvait aller travailler sur les métropoles et mobiliser les élus en disant, on n'est pas bon sur le plan économique. Et qu'après, on peut tirer les wagons. Et il ne se sentait pas de partir sur un truc plus large, plus transversal, sur la qualité de vie dans les métropoles. C'était un peu tactique, et en même temps, un choix idéologique, un peu entre les deux.